Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Donc là devant moi, j'ai la lettre que j'ai reçue d'un homme de l'Oklahoma. Écoute mon ami, cette lettre sera la dernière que je vais t'écrire. Je n'ai plus rien à te dire, simplement que j'ai apprécié tout ce que tu as fait pour moi. Il n'y a plus rien à dire, mon temps est venu. Je pars avec de la paix, de l'amour, de la joie dans mon cœur. Tu seras toujours dans mes pensées et dans mes prières. Que j'aurais aimé avoir un peu plus de temps, aussi du temps pour te connaître mieux. Je n'ai pas peur de faire face à la mort. J'ai un peu plus peur de la mort en elle-même. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière après. Mais la seule chose dont je sois sûre, c'est que je vais aller au paradis. Et je vais être avec les gens que j'ai aimés. Je penserai à toi et à tous les amis que je laisse derrière moi.
La peine de mort constitue une violation du droit à la vie. C'est le châtiment le plus cruel, le plus inhumain et le plus dégradant qui soit. Elle n'a pas sa place dans un système judiciaire moderne, lit-on sur le site d'Amnesty International. Une exécution, continue Amnesty, à l'instar d'un acte de torture, est une agression délibérée qui vise une personne emprisonnée. Elle s'accompagne souvent d'effroyables souffrances, même lorsque les méthodes employées sont dites humaines, comme l'injection létale. La peine de mort est irréversible, les erreurs judiciaires étant inévitables, quel que soit le système en place, des innocents seront exécutés tant que ce châtiment sera maintenu. De plus, la peine de mort n'a pas sur la criminalité un effet plus dissuasif que les autres peines. Au Canada, par exemple, le taux d'homicide a baissé de 40% depuis 1975. Or, le meurtre n'y est plus passible de la peine de mort depuis 1976. Aux États-Unis, la peine de mort a été abolie en 1967, puis rétablie à discrétion dans 38 États sur 50. En 2015, 28 condamnés à mort ont été exécutés aux États-Unis, les deux tiers dans le seul État du Texas. En avril 2015, 2851 personnes attendaient dans les couloirs de la mort, leur situation à elles seules constituant une violation des droits de l'homme que tentent d'adoucir aujourd'hui Léana et Yannick, qui racontent leurs liens et leurs combats jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre, une émission que vous pouvez écouter ou réécouter à l'occasion du 35e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, dont nous pouvons être fiers.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je corresponds avec Elijah Joubert, qui est condamné à mort au Texas.
Comment est-ce que ça a commencé pour vous? Comment est-ce que vous vous êtes décidé à correspondre avec lui?
Alors, en fait, j'ai entendu parler d'une histoire d'un condamné à mort au Texas. Son histoire m'a beaucoup, beaucoup marquée. Et du coup, j'ai fait des recherches sur Internet. Et je suis tombée sur un site où ils mettent les noms et les adresses des condamnés pour leur écrire. Ce que je ne savais pas que ça existait. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai regardé un peu les noms, quel genre de crimes ils avaient fait. Je me suis vraiment intéressée à cet univers. Et j'ai hésité beaucoup, beaucoup à écrire, en fait.
Pourquoi?
Parce que c'est quand même assez délicat de se lancer dans ce genre d'expérience. Parce que c'est quand même des gens qui ont fait des crimes. Et on ne sait pas trop comment réagir. Est-ce qu'il faut les plaindre ou est-ce qu'il faut leur se dire que c'est bien fait pour eux ou d'être d'accord avec ça. Il faut arriver à se situer. Ce n'était pas évident à choisir si je voulais le faire ou pas, en fait. Mais je me suis dit, je sentais qu'il fallait que je le fasse. Donc j'ai pris la décision et je n'ai jamais regretté une seconde, jamais.
La première lettre a été difficile. Je ne savais pas du tout où j'allais, donc je me suis retrouvée devant une feuille blanche pendant des jours. Je ne savais pas quoi lui dire, je n'avais jamais fait cette démarche auparavant, donc je ne voyais pas très bien comment on allait aborder le sujet, ce que je pouvais lui apporter et comment lui allait réagir. Et puis, la réponse est arrivée très vite parce qu'ils ont un besoin énorme de correspondre avec des gens qui veulent leur apporter de l'aide, qui veulent leur apporter un peu d'humanité et d'amitié. Et la réponse est revenue par retour du courrier. Et puis, où il me posait plein de questions, qui j'étais, ce que je faisais, si je pouvais envoyer des photos de ma famille, pour essayer de me cerner un peu mieux. Et puis, c'était lancé. Et donc, j'ai commencé avec lui. Et puis, par le fruit du hasard, d'autres de ses amis ont demandé que je corresponde aussi. Et je me suis retrouvée à correspondre au début avec 4 ou 5. Et maintenant, j'en suis à 7 prisonniers.
Vous écrivez combien de lettres, par exemple, à tous vos correspondants ?
J'essaye en général de leur écrire une fois par semaine à chacun. Parce que je sais combien ça compte. Chaque jour, au moment où le courrier est distribué, le fait d'avoir une lettre pour eux, ça change tout à fait leur journée. Tous se plaignent de cette solitude. Donc, ils sont en fait enfermés 23 heures par jour. Et ils ont une heure pour prendre leur douche et faire du sport à l'extérieur de leur cage, mais ils ne sont pas en contact, même quand ils prennent leur douche ou quand ils font du sport, ils ne sont pas en contact avec d'autres détenus. Donc ils sont vraiment en solitude complète, on les considère un peu comme des animaux, ils ne font plus partie des vivants. D'ailleurs, quand un homme vient d'entrer dans les couloirs de la mort, le garde qui l'accompagne hurle dans les couloirs « Dead man walking », donc vraiment un homme mort qui avance. Il y a des gens qui deviennent fous, il y en a qui demandent à un certain moment d'être volontaires pour partir, parce qu'ils ne supportent plus la vie qu'ils mènent.
Est-ce qu'ils vous ont raconté leur histoire à travers les correspondances ?
Je connais pratiquement l'enfance des 7 gars avec qui je corresponds. L'histoire se ressemble toujours. Ils sont nés dans un quartier très défavorisé, souvent uniparental, élevé par la mère. Le père n'est pratiquement jamais là. Lui-même souvent fait des périodes de prison aussi. Et les garçons sont élevés par eux-mêmes dans la rue. Et sont entraînés par des plus grands à faire des petits larcins au début, vendre de la drogue, et ça se termine par un crime, voire même plusieurs crimes. Et au niveau de leur défense, étant donné qu'aucun membre de la famille n'a d'argent, ils ont un avocat pro-déo.
Pro-déo, c'est-à-dire commis d'office ?
Commis d'office. Et c'est ça qui m'a fait faire cette démarche. Et je me suis rendu compte qu'en effet, les États du Sud, aux États-Unis, n'aidaient pas des jeunes qui étaient de milieux défavorisés à avoir un procès convenable.
Je voulais quand même éviter d'écrire à quelqu'un qui soit... qui ait tué des enfants ou violé des enfants ou fait du mal à des animaux. Ça, c'est vraiment le sujet qui est trop sensible pour moi. Je ne pourrais pas écrire à quelqu'un comme ça. Et c'est vrai que je me suis renseignée de ce qu'il a fait. Et c'est clair que ce n'est pas joli, mais voilà.
Et qu'est-ce qu'il a fait ?
Il s'agit d'un braquage dans un supermarché. Et ils étaient 3 copains ensemble, 3 ou 4. Et en fait, ils voulaient juste avoir l'argent de la caisse. Et donc, ils ont braqué avec un pistolet. La police est arrivée, malheureusement. Et ils ont tiré dessus, sur la caissière et sur le policier. C'est vrai que c'est très rude, mais c'est ce qui s'est passé, quoi.
Il a quel âge ?
Il a 28 ans. Donc, ça fait 4 ans qu'il est enfermé. Il s'est retrouvé dans le couloir de la mort à... quel âge ? 25, 24 ans, ouais. C'est très jeune, mais j'ai entendu quand même qu'il y en a des, ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils sont dedans, à 19 ans, ils sont déjà dans le couloir de la mort. Et c'est même pas majeur aux États-Unis en plus. C'est assez fou quand même.
Vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 24 ans. Donc on se comprend parce qu'on est aussi un peu dans la même tranche d'âge. Donc on parle vraiment entre jeunes, on se comprend beaucoup. On a vraiment un monde différent l'un de l'autre. On a grandi dans 2 mondes vraiment très différents, mais on se respecte les deux. On se respecte nos différences, en fait.
De quoi est-ce que vous parlez dans vos lettres ?
On parle beaucoup de c'est vrai que lui pose beaucoup de questions sur ma vie. Et moi, je lui réponds ce que je fais de mes journées, ce que je veux faire, et j'ai l'impression que de cette manière, il arrive à vivre mentalement comme ça, en fait. Donc, on parle beaucoup de la vie, de la musique, parce qu'il aime beaucoup la musique. Je lui apprends un peu les dernières nouveautés qui sortent, ce qui se passe un peu dans le monde, parce qu'il est un peu coupé du monde, c'est vrai.
Ça ne vous dérange pas, justement, qu'il... Vous dites qu'il vit à travers vous. Ça ne vous dérange pas, ça ?
Non, ça ne me dérange pas vraiment. Bien sûr que je mets des limites, mais sinon... Moi, ça ne me dérange pas parce que je sais dans quel monde il vit. Il est enfermé 23 heures sur 24 et encore, s'il a la permission de sortir. Et il a des fois un repas par jour, même pas. C'est vraiment cruel. C'est vraiment... Je pense que c'est très, très dur à vivre. Et du fait qu'il puisse vivre par moi, je pense que ça lui amène beaucoup et c'est ce que je veux, justement. Et lui, il est du genre assez à vouloir me conseiller ou... m'aider dans des décisions, c'est vrai que c'est devenu presque un confident, en fait.
Il n'y a pas eu pour vous ni pour lui d'ambiguïté amoureuse, puisque vous êtes jeune et que vous avez pratiquement le même âge ?
Alors ça, c'est justement ce qu'on pourrait imaginer, ça c'est clair. C'est vrai qu'il a essayé, parce qu'ils sont coupés des femmes, de tout ce qui est relations amoureuses, tout ça, c'est fini pour eux. Bien sûr qu'il a essayé. Donc moi, j'ai mis les choses au clair. Il sait que j'ai un ami et que je n'ai pas envie de mélanger amitié ou relation entre lui et moi comme ça. Je ne pense pas que je pourrais tomber en plus amoureuse d'un homme qui a tué ou qui a fait du mal comme ça aux familles. Je ne peux pas tomber amoureuse de quelqu'un comme ça. Ce que je peux lui apporter, c'est une main tendue, mais pas plus. J'ai dit, je t'apporte le plus que je peux, mais ne me demande pas plus. Parce que je peux pas te le donner.
Là devant moi, j'ai la lettre d'un monsieur que je n'ai jamais visité, mais avec qui j'ai écrit assez longtemps. Et on s'est écrit de manière régulière. Et un beau jour, il m'a écrit une lettre. Je n'étais pas certaine que ça serait sa dernière lettre. Il écrit « Voilà, j'essaye de répondre à toutes les lettres que j'ai reçues dernièrement, mais c'est impossible, j'en ai vraiment reçu de trop, je n'aurai pas le temps. Je dois d'abord penser à nettoyer ma cage pour la prochaine personne qui va arriver là. Je ne voudrais pas laisser une cage sale. Et le jeudi, j'aurai des visites jusqu'à midi, et puis ils vont me conduire à la chambre de la mort vers 12h30. Et puis, on va attendre et voir ce qui va se passer. Je n'ai pas peur, mais je suis fâchée. Je ne comprends pas ce qui se passe et je n'ai pas envie de mourir fâchée. Mais ça me paraît naturel. Ils vont me mettre à mort. C'est délibéré, c'est calculé, c'est froid, c'est fait d'une manière clinique. Et en plus, pour quelque chose que je n'ai rien à voir. Ils peuvent me tuer, je dis. Mais... les gens qui vont faire souffrir, ce seront mes enfants, ma famille et mes amis. Et ils n'ont pas le droit de leur faire du mal. Comme tu peux le voir, ma colère est à différents niveaux. Mais ne t'en fais pas. Je vais pouvoir trouver un chemin pour m'en sortir. Je veux pas que les gens que j'aime sentent que je ne suis pas bien. Mais, évidemment, dans ces conditions, je ne peux pas faire grand-chose. Je suis à la moitié du chemin du livre que tu m'as acheté. C'est hilarious. Je ne sais pas comment, mais je n'arrête pas de rire. J'espère que je serai en mesure de le terminer. J'espère. Mais fini ou pas, je suis sûre que de toute manière, je le laisserai à d'autres qui vont pouvoir en profiter. Et puis, il écrit, on ne s'est jamais rencontrés, mais on peut continuer à avoir de l'espoir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai eu une visite intéressante avec ma maman il y a une semaine. Normalement, j'ai toujours dit aux gens que je n'avais jamais été amoureux. Et à ce moment-là, j'ai pensé que c'était vrai. Et samedi passé, je me suis rendu compte que j'avais tout faux. Laisse-moi t'expliquer. Quand j'avais 10 ans, je suis tombée fou amoureux d'une petite jeune fille. Elle avait aussi à peu près mon âge. Elle était anglo-white, d'une très bonne famille. Et moi, eh bien, j'étais un pauvre Mexicain. Quand ses parents ont découvert qu'on était ensemble, ils ont tout fait pour nous séparer et ils nous ont attrapés. Sa famille avait des propriétés dans différents états, donc ils ont déménagé en Oklahoma. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais 16 ans, elle en avait 14. J'écris ces sentiments qui paraissent des sentiments de petit enfant, mais j'ai jamais pensé une seule fois qu'il y avait une seule femme qui avait compté dans ma vie. Et c'est cette jeune femme, Becky. Lors de sa dernière visite, ma maman m'en a parlé. Et c'est là que je me suis rendu compte que, malgré tout ce temps, je pensais toujours à elle. Elle avait demandé à ma maman de mes nouvelles. Et elle lui a demandé qu'est-ce qui s'était passé. Et elle a dit qu'elle allait peut-être m'écrire. Mais ma maman a dit que c'était trop tard maintenant. Je me sentais un petit peu bête de ça. Maintenant, je réalise que je l'ai jamais oublié, que j'étais tellement bête de penser que c'était un amour de jeunesse. C'était l'amour, vraiment, une fois je l'ai connu. Bon, maintenant, mon ami, je vais arrêter cette lettre. Je ne sais pas si je serai encore là quand tu vas la recevoir. De toute manière, je veux te remercier pour l'amitié que tu m'as apportée. Ça fait une énorme différence dans ma vie. Et par la force de Dieu, je serai peut-être encore en vie le 21. De toute manière, si j'étais encore en vie, je vais te le faire savoir le plus rapidement possible. Et puis, ça sera écrit dans le vent. Voilà. Et quand j'ai reçu cette lettre, en fait, c'était le jour de son exécution. Il s'appelait Louis.
C'est quand même des gens qui ont tué. Et ils ont quand même détruit des familles, c'est vrai, ça j'en suis consciente. Donc je peux me mettre à la place des gens qui sont contre le fait de parler avec des condamnés à mort. Parce que ça pourrait aussi être quelqu'un qui tue ma famille et je pense pas que j'aurais envie de lui écrire. Donc ça, je peux très bien le comprendre. Mais j'aime autant qu'on me respecte dans ma décision. C'est peut-être bizarre à dire, mais au bout d'un moment, on a plus l'impression de correspondre avec un ami que d'un condamné à mort, en fait. Parce qu'on parle tellement de choses de la vie, et spécialement avec lui, on ne parle jamais de sa condamnation, on ne parle jamais surtout de son exécution. C'est très, très tabou. On ne vient jamais à ce sujet-là. Ça, c'est le gros problème aussi, c'est qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Il existe des sites internet où ils mettent les futurs condamnés qui vont être exécutés dans l'année qui vient. Grâce à ce site, si on veut, je peux me renseigner. Mais c'est très dur à faire le pas d'aller voir. J'y pense pas et j'évite. Je veux pas penser à ça parce que c'est trop triste et ça me fait trop mal au cœur. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite pas ça. Même s'il a fait du mal, il mérite pas ça et j'ai pas envie.
Est-ce que vous avez envie de le rencontrer ?
Oui, j'aimerais beaucoup mettre un visage réel sur Elijah. Je l'ai vu en photo, mais j'ai vraiment envie de le voir en vrai, parce qu'on a partagé beaucoup de lettres. Il est un peu rentré dans ma vie, comme moi je suis rentrée dans sa vie, et je pense planifier un voyage pour aller le rencontrer.
On a besoin à un certain moment de les voir, je trouve. On a besoin de voir... La lettre, c'est une chose, mais on a besoin de voir dans les yeux. Regarder quelqu'un dans les yeux et se rendre compte qu'il est content de vous voir. Et la manière dont on parle, on peut se rendre compte quand même pas mal de la personne qu'il est. Et quand je me suis retrouvée dans la salle de visite, j'étais terriblement angoissée. J'avais envie de fuir. Je me demandais ce que j'étais venue faire là. Parce que je me demandais si c'était vraiment ça que je voulais. J'avais peur de me retrouver devant un homme avec qui j'ai écrit oui, mais me retrouver face à lui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien lui raconter? Et puis quand je suis arrivée dans cette salle de visite, j'ai vu qu'il y avait plein de gens, des familles, mais aussi des dames européennes et des dames de tout azimut. Et tout le monde riait. Les prisonniers avec leurs visiteurs, tout le monde riait. Et ça m'a enlevé un poids où je pensais qu'on allait aller vraiment vers les histoires tristes. Je ne savais pas si je devais me mettre à pleurer en les voyant. C'était pas du tout ça, absolument pas. On se voit et on se raconte plein de choses, mais pas des choses dramatiques du tout.
Je pense que ça va être magique. Moi, j'imagine déjà assis l'un en face de l'autre, lui très souriant, ben, je sais que c'est quelqu'un qui sourit quand même beaucoup. D'après, en lisant ses lettres, je peux le comprendre. Et je pense qu'il va être très souriant, moi aussi. On sera tous un peu émus de se parler en face comme ça. Voilà, je le vois prendre le téléphone, me regarder, parler, partager des choses comme ça au téléphone. Et voilà, et je pense aussi quand même, dans l'autre sens, au moment où après on doit se quitter, ça risque d'être très très dur, je pense aussi.
C'est il y a 2 ans, il y a exactement 2 ans. Aujourd'hui, ça serait son anniversaire, il aurait 30 ans. Je suis devenue très très proche de ce jeune homme parce que on avait beaucoup de points communs. Et quand j'ai appris qu'il avait une date, je me trouvais au Texas à ce moment-là. Et donc, il m'a vraiment fait comprendre que notre amitié était tellement précieuse qu'il aurait aimé que je sois là pour ses derniers instants.
Vous avez accepté?
Oui, ça n'a pas fait l'ombre d'un doute. Avec lui, je ne pouvais pas imaginer que je n'aurais pris que le bon côté et au moment où il avait le plus besoin de ses amis, que je ne serais pas venue. Oui, j'ai fait le voyage spécialement pour son exécution. J'étais très naïve, j'ai pensé qu'il allait se passer quelque chose, que ce serait comme dans les films et que à la dernière minute, on allait dire que c'était pas lui le coupable et qu'il arriverait à sortir. C'était très très dur, parce qu'à un certain moment, on ne trouve plus les mots qui fait pour aider la personne, puisqu'on voit bien qu'on arrive vers l'échéance, et c'est très très difficile. Et je pense que c'était vers 5h, 5h15, 5h30, on nous a emmenés vers le lieu de l'exécution. Et donc, quand ils nous ont fait rentrer dans cette pièce, on entre dans un petit couloir, et où lui peut nous voir, il peut voir aussi à l'opposé, nous on ne peut pas voir, mais la famille de la victime assiste à l'exécution de l'autre côté, mais ce sont des vitres où la famille de l'accusé et la famille de la victime ne peuvent pas entrer en contact. D'ailleurs, ils sortent par des portes opposées, ils ne se rencontrent pas. Et donc la première chose que l'on voit quand on entre, c'est cette horrible table où il est, les jambes écartées, les bras écartés, ficelés de tous les côtés, et les bras déjà remplis de tuyaux, et les seringues sont déjà placées. Donc, à sa tête, il y a le directeur de la prison, et à ses pieds, il y a un révérend qui est là pour l'aider, et on lui demande s'il a quelque chose à dire. Il a demandé à ses amis et à sa famille de s'entraider et de continuer à se battre pour aider les autres qui allaient devoir traverser ces mêmes moments. Et au moment où il a dit « voilà, c'est terminé », on introduit déjà les produits. Donc quelques instants après, il y a un râle et il arrête de respirer Et le deuxième poison arrive, qui le paralyse complètement. Et ensuite, c'est la troisième injection qui arrête le cœur.
The pale horse coming, and I'm gonna ride it. I'll rise in the morning, my fate decided, I'm a dead man walking, I'm a dead man walking. In St. James Parish, I was born and christened. I've got my story, mister, ain't no need for you to listen. Dead man talking.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Les Couloirs de la Mort aux États-Unis, Les Lettres aux Condamnés, une émission diffusée pour la première fois le 12 septembre 2008, signée Élise Andrieux, réalisée par Christine Robert, avec un coup de main d'Alexandra Malka. Sandrine Chaperon, c'était déjà attachée de production des Pieds sur Terre, heureusement. Merci à Annick et à Léana, ainsi qu'à l'association Ensemble contre la peine de mort. Je vous rappelle que cette émission était diffusée et rediffusée à l'occasion du 35e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, par Robert Badinter et François Mitterrand. Des commentaires, des réactions, des suggestions, c'est sur notre site. Vous pouvez toujours y poster des commentaires, en principe. Mais vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter. Et on compte sur vous pour partager et commenter nos émissions si elles vous ont intéressé.
Move slowly across the sky. There's a new day coming, and my dreams are full tonight.